Voilà, je pense pas que je serai spécialement long, mais je voudrais vraiment partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je voudrais m'arrêter avec vous sur une parole de l'apôtre Paul, un verset que nous connaissons. On ne va pas s'arrêter que sur ce verset, ça va nous conduire vers d'autres textes. Mais ce verset, il m'a pas lâché pendant plusieurs jours. Et je sais en général quand c'est comme ça, c'est que le Seigneur veut peut-être dire quelque chose ce matin à quelqu'un, à plusieurs. Et vraiment, c'est un verset qui s'est imposé, qui était fort. Et voilà ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Il est dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Paul dit ceci, donc il s'adresse à des croyants. Il leur dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Alors j'apporte une petite précision. On peut mettre le mot tentation ou le mot épreuve, parce que dans le texte original, c'est le même mot. Donc on peut dire aucune tentation, aucune épreuve, difficulté, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Et c'est vraiment le verset qui était là sur mon cœur, qui m'a pas lâché pendant plusieurs jours et que je voudrais partager avec vous. Et j'aimerais déjà commencer de cette façon-là en disant ceci, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, ne doutons jamais de la fidélité de Dieu. Jamais. Il semblerait que c'est quelque chose que les Corinthiens avaient besoin d'entendre ou de réentendre. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a besoin d'entendre et de réentendre. Quand vous regardez un petit peu juste avant, toujours dans les Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1er verset 8 et 9, l'apôtre Paul déjà rappelait ceci. Il va leur dire, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez, ça revient. Dieu est fidèle. Et il le répète plusieurs fois. Vous voyez? Et je crois que c'est important de pouvoir commencer par là ce matin, de rappeler, de ne jamais douter de la fidélité de Dieu. Je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas ce que tu traverses. Bien sûr, on se connaît un peu, certains, on sait certaines choses, mais il y en a d'autres qu'on ne sait pas. Mais je sais une chose, c'est que Dieu est fidèle. Et s'il y a une vérité de la Bible auquel l'ennemi de notre âme s'attaque, c'est celle-là. Parce qu'il sait très bien qu'un croyant qui est dans le doute par rapport à la fidélité de Dieu, il est beaucoup plus vulnérable. On peut être dans des moments difficiles, mais il y a cette certitude que Dieu est là et que Dieu est fidèle. Et cet enfant de Dieu-là, quand il est campé dans ces certitudes-là, l'ennemi ne peut pas le toucher. Mais quand quelque part, pour X raisons, on est fragilisé à ce niveau-là, on se pose des questions sur la fidélité de Dieu, mais est-ce que vraiment Dieu est fidèle? Parce que avec ce que je vis, avec ce que je traverse, là, on devient beaucoup plus vulnérable. Et c'est pour ça que l'ennemi de notre âme s'attaque à cette vérité-là. Et l'apôtre Paul ici dit, Dieu est fidèle. Il le dit, et c'est inspiré par le Saint-Esprit, dans un contexte de difficulté. Aucune épreuve, aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu qui est fidèle. Alléluia. Maintenant, et c'est surtout là-dessus que je voudrais m'arrêter ce matin, parce que c'est ça qui m'a arrêté, qui m'a fait réfléchir, et que je voudrais partager avec vous ce matin. Il y a la suite du verset. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés, éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, et là je l'ai souligné, il préparera. Et c'est ça qui m'a arrêté. On le lit vite, mais ça, je voudrais qu'on y réfléchisse ce matin. Il préparera aussi le moyen d'en sortir. Et je crois que là, il y a quelque chose de très important pour nous. Il y est question de ce que Dieu fait alors que nous ne le voyons pas. Il est question de ce que Dieu fait alors que nous n'en sommes pas conscients. Et je crois que c'est important qu'on réalise, que je réalise, que dans toute situation, bonne ou mauvaise, il y a toujours ce qu'on voit. On ne peut pas le nier, hein. Il y a des choses qu'on voit, c'est devant nos yeux. À part faire comme ça, on ne peut pas le nier, on les voit. Il y a toujours ce qu'on voit, mais il y a aussi ce qu'on ne voit pas. Et c'est tout aussi important que ce qu'on voit. Et c'est ce que ce verset fait ressortir, vous voyez, dans nos difficultés, dans nos épreuves, dans nos tentations, dans nos moments difficiles, Il y a toujours ces deux aspects. Et notre problème, c'est que souvent, on est focalisé que sur un, c'est ce qu'on voit. J'allais dire, c'est normal, on est humain. Mais Dieu, par sa parole, veut nous mettre aussi les yeux sur ce que nous ne voyons pas. Oui, vous ne serez pas tenté au-delà de vos forces, éprouvé au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, avec la tentation, il préparera aussi. Il y a comme cette porte qui s'ouvre pour nous dire, mais attends, il y a aussi ce que tu ne vois pas, il y a ce dont tu n'es pas conscient, mais pourtant, je suis en train de le faire. Alléluia. Voyez. Et ça m'a fait penser à ce récit de l'Ancien Testament. Vous rappelez, à un moment donné, il y a Élisée, il y a son serviteur, et puis un matin, la Bible nous dit que le serviteur, il va ouvrir les volets, et là, wow, c'est la catastrophe, ce qu'il voit, et ce qu'il voit, c'est pas très enthousiasmant, à tel point que il va dire la question que nous posons souvent, qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, Élisée va prier. Et il va pas faire n'importe quelle prière. Peut-être on va le mettre, regardez. Deux Rois chapitre 6, versets 15 et 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a tellement de fois on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais y arriver? Et regardez la suite. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et on pourrait lui dire, ah, t'en as de belles toi, hein? Parce que ce que je vois moi, c'est pas ça. Et voilà la prière qu'il va faire. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Mon désir, c'est que ce matin, au travers de sa parole, Dieu nous ouvre les yeux. Sur cette réalité que nous ne voyons pas toujours, dont nous ne sommes pas forcément conscients, c'est que alors que nous sommes parfois dans des situations qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas, on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants. Il y a ce que je vois, mais il y a aussi tout ce que je ne vois pas. Il préparera aussi le moyen d'en sortir. Alléluia. Je pense aussi à cet autre texte que nous connaissons, la multiplication des pains. On connaît cette histoire où la foule est là, les gens ont faim, et les disciples se grattent la tête pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et puis il y a l'histoire des 5 pains et 2 poissons, on connaît. Et puis Jean nous fait ressortir juste un aspect que les autres ne parlent pas, les autres évangélistes ne parlent pas. C'est qu'il nous a dit que, on va le mettre, regardez Jean chapitre 6 verset 5, ayant levé les yeux, voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Et regardez, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. C'était prêt. La solution, elle était préparée déjà. Il savait. Seigneur Jésus ne s'est pas dit, qu'est-ce qu'on va faire? Mais ce n'était pas prévu au programme, ça. Mais il savait ce qu'il allait faire. Et dans nos vies, c'est la même chose. Tout est déjà prêt. Dieu n'improvise pas avec nos vies. Dieu n'est pas un espèce de chimiste où il est là en train de dire, bah, on va faire ça, peut-être on va essayer, on va voir. Non, non. Il prépare aussi le moyen d'en sortir. Et là, il savait déjà. Il savait. Et moi, ça me fait tellement de bien de savoir que Dieu sait. Et que Dieu a déjà tout préparé. Mais ce matin, c'est surtout sur une histoire, je voudrais m'arrêter, parce qu'elle fait ressortir d'une manière tellement extraordinaire ce qu'on a lu dans les Corinthiens. Mais avec l'épreuve, la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Et il y a un récit dans l'Ancien Testament qui fait ressortir ça d'une manière tellement parfaite, c'est l'histoire d'Abraham dans Genèse 22. Je voudrais qu'on lise cette histoire, on la connaît, mais permettez qu'on la relise parce qu'il y a des détails, ça fourmille de petits détails qui sont extrêmement intéressants. Alors, vous la connaissez, nous la connaissons, Genèse 22, il est dit ceci, Genèse 22, on va commencer par les 8 premiers versets. Il est dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Et le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Alors ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père ». Et il répondit « Me voici, mon fils Isaac ». Reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. On arrête là, on va reprendre un peu la lecture après. Déjà, ça commence d'une manière un petit peu particulière. puisqu'il nous est dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ça nous surprend, hein ? Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Abraham, dans ce moment-là, nous on lit ça vite, parce que c'est notre problème, nous on connaît l'histoire. Hein. On connaît le début, on connaît la fin, on peut beaucoup parler dessus, mais est-ce qu'on réalise à ce moment-là ce qui s'est passé dans l'esprit et dans le cœur d'Abraham ? Il est là, dans cette vallée que j'appelle la vallée des pourquoi. Vous avez déjà traversé cette vallée-là ? Où on n'a pas toutes les explications, on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants. C'est flou, c'est le brouillard, on ne comprend pas tout. On se demande qu'est-ce qu'on a fait pour passer là ? Ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Voyez ? Et Abraham, il est dans cette situation où quelque part, il ne maîtrise pas tout. La situation lui échappe. Voyez ? Mais ce que je note chez Abraham, qui, soit dit en passant, à ce moment-là, était loin d'être un homme parfait. Puisque si vous allez juste deux chapitres avant, chapitre 20 de la Genèse, il y a l'histoire où avec Sarah, c'est ma sœur, bon, il ment, vous voyez, il dit une demi-vérité, vous voyez, il fait un peu langui, vous voyez. Donc il n'était pas parfait, hein. Il n'était pas parfait. Mais ce que je note chez Abraham, c'est que malgré le fait qu'il comprend pas tout ce qui lui arrive, parce que quand même, ce que Dieu lui demande, c'est particulier. Ce fils, il avait quand même du mal à l'avoir. On aurait pu dire, Seigneur, demande-moi tout sauf ça. Tu peux tout, mais pas ça. C'est le seul truc qu'il ne fallait pas lui demander, c'est ce que Dieu lui demande. C'est pour ça, attention à ce qu'on dit au Seigneur. Hein. Jamais j'irai là-bas. Moi je ne le dis plus. Je ne dis plus, jamais je ferai ça. Ne dites jamais ça. Voyez, parce que vous ne savez pas, le Seigneur, vous ne savez pas. Voyez. Et je me dis, mais Abraham, mais ce que je note, c'est que, premièrement, même s'il ne comprend pas, même s'il ne sait pas où ça va le mener, même s'il ne sait pas la fin de l'histoire, il ne sait pas comment ça va finir, premièrement, il est dans l'obéissance. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il est dans l'obéissance. Deuxième chose que je note, c'est qu'il est dans la foi. Verset 8, cette parole elle semble anodine, mais elle est tellement importante. Quand Isaac lui dit, dis donc, papa, je me dis, ça devait être la question, toutes les questions, mais pas celle-là. C'est bien, on y va là-bas, d'accord, hein, super, on fait un peu de tourisme, c'est bien. Mais il est où l'agneau pour l'Holocauste ? T'inquiète. Il devait se dire, Seigneur, qui ne me la pose pas, qui ne me la demande pas la question. Et verset 8, il va dire, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Il est dans la foi. Alors, nous, on lit ça comme ça, c'est facile, hein ? Mais dans la réalité, vous imaginez, dans son cœur de père, vous voyez ? Notez bien tous les détails qu'il y a dans l'histoire. Verset 4, le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Trois jours, c'est court et c'est long. Ça passe très vite quand tout va bien. C'est très long quand tout va mal. Et je me dis que pendant trois jours, ça a dû cogiter dur. Dans les pensées, dans les raisonnements, ça a dû être interminable. Interminable, c'est-à-dire... Mais... Et plus d'une fois, dans ces trois jours, il a dû avoir l'occasion de dire « Non, je ne peux pas ». Il a eu l'occasion de rebrousser chemin. Vous noterez aussi, verset 2, que Dieu va lui dire « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Et là, on pourrait dire « Ouais, mais encore, il n'y a pas d'autre explication que celle-là. » Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aime bien avoir les explications quand même. Hein. On le sait, mais Dieu n'est pas obligé de tout nous expliquer. Je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, quand je vais arriver au ciel, j'ai une liste de questions. Hein. Seigneur, il y a des choses, il va falloir que tu m'expliques, hein, parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Hein. Je me fais des réponses. J'imagine. Je me dis, bon, la Bible dit que. Bon, et... Mais bon, est-ce que c'est vraiment ça ? Dieu n'est pas obligé de tout nous expliquer. Et là, il lui dit, tu vas m'offrir ton fils, ton unique, hein, mais et pourquoi ? Et pourquoi ? Et, il n'a aucune réponse, mais Ce que je note, c'est que il reste dans l'obéissance et il est dans la foi. Et j'aimerais nous dire ce matin, et je m'inclus dedans, mon frère, ma sœur, même si nous passons par cette vallée la même que Abraham, même s'il n'y a pas toutes les réponses, tous les tenants, les aboutissants, même si je ne comprends pas tout, avec son aide et sa grâce, restons dans la foi et dans l'obéissance. Restons dans la foi et dans l'obéissance. Seigneur, je ne vais pas commencer à discuter, je ne vais pas commencer à me laisser envahir par le doute, et ça rejoint un peu ce qu'on a vu dimanche dernier, ne donnez pas accès au diable. Vous voyez, parce que c'est là où justement, quelque part, si on ne veille pas, c'est là que l'ennemi s'infiltre, vous voyez. Abraham, il n'est pas parfait, il a des travers, mais comme vous et moi, et comme moi et vous. Mais il reste dans la foi, dans ce moment où c'est le brouillard, dans ce moment où il, dans ses pensées, ça cogite, ça tape dur, mais il est là dans la foi, dans l'obéissance, et il va jusqu'au bout. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est la suite. C'est la suite, parce que si on continue le récit, Abraham va aller jusqu'au bout, et on va pas tout lire, mais vous rappelez, la Bible dit qu'il va, hein, il va monter l'Holocauste, tout ça, et là je me dis que pendant qu'il est en train de monter l'Holocauste, je sais pas combien de temps ça lui a pris, il devait se dire, oh purée, Seigneur va intervenir, va faire quelque chose, tout ça, et puis rien, comme dirait Louis Martinez, walou, et puis arrive le moment où ben il faut mettre l'Holocauste, quoi. Et vous imaginez le moment où il prend son fils. Il le lit, il l'attache. Enfin, moi, je ne sais pas. J'essaie de réfléchir, mais je me dis, mais ça a dû être compliqué quand même. Ça a dû être compliqué. Et puis, il l'attache. Enfin, je ne sais pas, moi. La Bible ne rentre pas dans tous les détails. Je me dis qu'Isaac n'est pas en train de se dire, c'est intéressant, donc c'est quoi, c'est un film, il est où celui qui va remplacer. Mais la peur, je ne sais pas, moi, ça devait se sur le visage d'Isaac. Ça a dû être terrible. Et puis, il lève sa main. J'invente rien, je ne l'ai pas donné, mais Genèse 22, verset 10. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Et puis, vous avez la suite. Verset 11. Un ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit. Et ça apparaît derrière, verset 12. Me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et c'est ça qui m'intéresse, verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Alléluia. Ce bélier, c'est la solution de Dieu. C'est la porte de sortie de Dieu pour Abraham. Voyez, ce bélier, il n'était pas là par hasard. Et on voit au travers de cette histoire que finalement, on a la parfaite illustration de ce qu'on a lu dans les Corinthiens. Dans les moments de difficulté, de tentation, d'épreuve, Dieu qui est fidèle, il préparera le moyen d'en sortir. Et là, dans cette histoire, on voit que c'est exactement ça. Dieu avait tout préparé. Il avait préparé le moyen de sortir de cette situation. Bien sûr, derrière, il y avait tout un aspect où il fallait qu'Abraham aille jusqu'au bout. Ça l'a fait grandir dans sa foi. Il y avait tout cet aspect-là pédagogique. Ok, on est d'accord. Mais on se rend compte que Dieu, de son côté, lui, alors qu'Abraham n'en est pas conscient, il avait tout préparé. Et ce bélier, il n'était pas là par hasard. Vous voyez ? Excusez-moi, je vais y mettre un peu d'humour, mais c'était pas « Oh, pas de peau !» Tu t'es trouvé là au mauvais endroit, au mauvais moment, t'es pris là, je ne sais pas comment t'as fait ton affaire, t'es pris dans le buisson, mais tant pis pour toi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Parce que j'avais déjà eu l'occasion de le dire, mais ce bélier, humainement parlant, il n'aurait jamais dû se trouver là. Puisque normalement, les béliers ne montent jamais à une telle hauteur. Ils ne montaient jamais aussi haut. Il n'aurait jamais dû se trouver là. Mais c'est Dieu qui l'a fait monter. C'est Dieu qui a fait en sorte qu'ils se prennent les cornes, on ne sait pas trop comment, dans ce buisson. Pourquoi ? Parce que Dieu avait préparé la sortie. Dieu avait déjà préparé l'issue de secours. Et là où ça me touche, c'est que, et je vois cette scène, quand je lis ce texte, je vois cette scène, vous avez d'un côté de la montagne, vous avez Abraham avec son fils qui monte. Mais de l'autre côté de la montagne, vous avez le bélier qui monte. Ça, Abraham, il ne le voit pas. Ça, il n'en est pas conscient. Ça, c'est la solution de Dieu. Ça, c'est la réponse de Dieu. Et alors que lui est en train de gravir d'un côté, l'autre, il est en train de gravir de l'autre. Mais ça, il ne le voit pas. Dieu était en train de préparer les choses. Voyez, finalement, ce bélier, il symbolise la solution de Dieu, la réponse de Dieu. Voyez. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais nous dire ce matin que, vraiment de la part du Seigneur, que dans toutes nos situations, Dieu a déjà préparé la solution. Alors, c'est peut-être pas forcément la solution que peut-être nous, on aurait choisie. Pas toujours. Mais Dieu préparera le moyen d'en sortir. Quelle que soit la manière, mais il préparera le moyen d'en sortir. Alléluia. Quel que soit ce que nous vivons, ce que nous traversons, il y a un bélier qui est préparé. Voilà. Et peut-être, j'utilise cette image de ce texte, Dieu est en train de préparer ton bélier, qui symbolise la réponse de Dieu, la solution de Dieu, la porte de secours de Dieu. Mais disons-nous une chose. Et moi, ça m'interpelle, ça me fait réfléchir. Je me dis, mais... Enfin, en tout cas, ça me parle. C'est que Abraham n'aurait jamais vécu ça. Parce que quand même, on en parlera peut-être un peu mardi, le timing de Dieu, il est... Vous auriez voulu le faire exprès. Il y a des choses... Il n'y a rien de plus qui m'énerve que les choses que vous auriez cherché à les faire, vous y seriez jamais arrivé, et sans me faire exprès, vous y arrivez. Ça m'énerve. J'aurais voulu le faire esprit, j'y serais jamais arrivé. Et puis là, et tout là, et ça tombe. Mais alors, ça, le timing de Dieu là, vous voyez. Mais Abraham n'aurait jamais vu ça, vécu ça, expérimenté ça, s'il s'était arrêté, s'il avait dit non, stop. Ah, stop, je laisse tomber, c'est trop dur, je peux pas, j'y arriverai pas. Ah, Seigneur, tu m'en demandes de trop, je peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Mais il n'aurait jamais vécu ça. Et il n'aurait jamais vu, j'allais dire, de ses yeux vus, la solution que Dieu avait préparée. Il n'aurait pas vu ça. L'histoire du bélier, il n'aurait pas vécu tout ça. Et moi, ça me parle parce que je me dis, mais Dieu prépare des choses. On ne le voit pas, on n'en est pas forcément conscient. Et dans toutes nos situations, les choses sont prêtes, sont préparées. J'allais dire, il prépare notre bélier, si vous me permettez cette image. Mais... ne verront ces choses que ceux et celles qui vont jusqu'au bout en restant dans la foi et dans l'obéissance. Et ça m'interpelle. Je me dis, mais vous imaginez, là, il commence jusque-là, il arrive à l'endroit et puis il n'y a rien, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'intervention. Et puis là, il dit, ah non, stop, on s'en va. Mais le bélier, il était là, hein, ou pas loin, hein, mais il n'aurait pas vu. Et je me dis, est-ce que des fois, peut-être, on ne serait pas passé à côté de certaines choses que Dieu avait préparé, vous voyez. Et moi, ça m'interpelle. Je dis, mais Seigneur, Dieu est un Dieu qui prépare. Dieu est un Dieu qui prépare. On n'en est pas conscient. On ne voit pas. Voyez, mais et pendant que parfois, on est en train de se débattre, des fois avec toutes sortes de pensées, toutes sortes de choses qui nous passent par l'esprit, mais de cette histoire est là pour nous amener à réaliser que mais Dieu sait ce qu'il fait. Et il sait où il va, et même si nous on est là, on ne comprend pas tout, ça nous dépasse complètement. Je dis même peut-être que c'est pas normal, parce que, Abraham, c'est pas normal cette affaire. Humainement parlant, c'est pas normal, c'est pas logique d'aller demander ce qu'il a de plus cher alors qu'il a eu tellement de mal à l'avoir. Voyez, c'est pas logique, mais les choses de Dieu, ça se réfléchit pas avec notre logique. Mais en même temps, Dieu prépare. Avec l'épreuve, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Cette histoire, c'est exactement ça. Le bélier était prêt. Et quelque part, on a au travers de cette histoire, et je fais le parallèle, la confirmation de ce que dira l'apôtre Paul aux Romains. On connaît ce verset, Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comment, Seigneur? Dieu fait concourir toute chose à notre bien, c'est-à-dire qu'il prépare les choses. Voilà. On n'en est pas conscient, on ne voit pas, mais Dieu est en train de faire en sorte que les choses se placent bien, que les choses se mettent bien. Mais il n'y a que Dieu qui peut le faire, ça. Et même des fois, des situations où on se dit, même ça, Dieu n'est pas pris au dépourvu parce qu'on sait finalement, on ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas ce que ça va donner. Et des fois, on est surpris. On aurait pensé que, vu ce qui s'est passé, ça allait être la cata. Au contraire, c'était une grâce. Parce qu'au travers de ça, Dieu s'est glorifié. Au travers de ça, Dieu a inversé la tendance. Au travers de ça, Dieu a touché. Au travers de ça, Dieu s'est manifesté. Au travers de ça, il y a un travail qui s'est fait. Et là, des fois, on dit, Seigneur, et moi, j'ai discuté, j'ai polémiqué, j'ai parlementé, je t'ai dit, c'est pas normal, etc. Mais rassurez-vous, on est tous pareils. Hein. Il préparera aussi le moyen d'en sortir. Peut-être, permettez-moi de nous dire ce matin, c'est que je crois que alors que nous sommes là, tous avec nos pourquoi, tous avec nos combats, nos luttes, Dieu prépare des béliers. Dieu prépare des béliers. On ne les voit pas, on n'en est pas conscient. Mais gardez toujours cette image en tête. Moi, ça me parle. Je me dis, Abraham, il monte d'un côté et le bélier, il monte de l'autre. L'autre, il est de l'autre côté, il est omnibulé par son truc. Et je le comprends, j'aurais fait pareil. Peut-être que moi, je ne serais même pas arrivé jusque-là. On est omnibulé. Mais il n'est pas conscient que de l'autre côté, il y a la solution qui est en train de monter. Il y a la solution qui est en train de monter. Voyez. Et quand même, quand on lit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Depuis combien de temps il était là? Il se débattait, j'en sais rien moi. Peut-être si ça se trouve, ça faisait déjà un petit moment, mais il ne le voyait pas. Il ne le voyait pas. Voyez. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne voit pas la solution, la porte de sortie. Mais peut-être parce que ce n'est pas encore le moment. Mais quoi qu'il en soit, Dieu a préparé les choses. Et moi, je bénis le Seigneur d'appartenir à un Dieu qui n'est pas un apprenti sorcier, alors, au coup par coup, au petit bonheur, la chance. Non, non, tout est prêt. Tout est prêt. Il préparera aussi le moyen d'en sortir. Et moi, j'ai envie de dire, Seigneur, je sais pas ce que tu prépares ou comment tu le prépares ou la façon dont tu le prépares. Mais je sais une chose, c'est que tu as raison. Des fois, la sortie, ce n'est pas celle que nous, on aurait choisie. Mais si Dieu a choisi cette sortie-là, c'est la meilleure. Alors, je veux lui faire confiance. J'ai dit que je ne serais pas long. En terminant, une petite chose qui m'a aussi interpellé, là aussi, je me suis senti quand même, j'ai dit, Seigneur, c'est nous, ça, c'est moi. Dieu lui donne, verset 2, à l'endroit où il faut aller. « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. » Donc, le lieu, il est indiqué. Verset 3, il est dit « Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs, son fils Isaac. Il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. » Au lieu que Dieu lui avait dit. Et vous allez au verset 9, c'est répété. « Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit. » Vous voyez ? Et on sait qu'entre le verset 3 et le verset 9, au moment où il part pour le lieu que Dieu lui avait dit et au moment où il arrive pour le lieu que Dieu lui avait dit, il y a eu 3 jours. Ouais. Ce qui montre une chose, c'est que malgré la difficulté et malgré le fait, je l'ai dit, qu'il a dû cogiter, qu'il a dû s'en passer des choses dans son esprit, eh bien Abraham n'a pas dévié. Il n'a pas dévié. Il est resté dans la foi et l'obéissance jusqu'au bout. Il y avait tout pour dévier, mais non, non, il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit et il est arrivé au lieu que Dieu lui avait dit. Et je crois que là, on touche souvent à ce qui parfois est notre problème. C'est-à-dire que quand survient une situation, un problème, une épreuve, appelez ça comme vous voulez, on est un peu comme Abraham dans le sens que on est comme lui, on est dans la foi. « Seigneur, je crois en toi, tu es tout puissant, on le confesse. » Je vais t'obéir, Seigneur, et puis on part là-dedans, et puis on y va, on fonce tête baissée, alléluia, gloire à Dieu. Et puis il y a les jours qui passent, et puis il y a les semaines qui passent, parfois plus, voyez. Et au bout d'un moment, avec le temps qui passe, c'est là que parfois on dévie. Parce que justement, les doutes prennent le dessus, parce que les raisonnements prennent le dessus. Parce que, et puis l'ennemi de notre âme, il en profite bien pour venir nous titiller, tu vois, c'est pas normal, etc., etc., voyez. Mais Abraham, lui, il n'a pas dévié, voyez. Et souvent, notre problème, il est là. Et moi, j'ai envie de dire ce matin, Seigneur, quel que soit ce qu'on passe et ce qu'on traverse, Seigneur, aide-moi à ne pas dévier, mais de rester toujours dans la foi et dans l'obéissance, même si, Seigneur, je ne comprends pas, gardant bien à l'esprit que tu prépares le moyen d'en sortir. Qu'il y a ce que moi je vois, mais il y a tout ce que je ne vois pas. Il y a tout ce dont je ne suis pas conscient. Alléluia. Et si peut-être ce matin je voudrais encourager peut-être quelqu'un qui... Il était question de tout à l'heure d'un doute dans un don spirituel. Mais si peut-être quelqu'un ce matin est découragé dans une situation parce que il semblerait qu'il n'y a pas d'amélioration, il n'y a rien qui change, etc. Mais j'aimerais au travers de l'exemple d'Abraham t'encourager. Et te dire, mais reste dans la foi et dans l'obéissance. Reste dans ce périmètre-là. Reste dans ce périmètre-là. Quand on ne se pas rentrer dans... Vous savez, quand dans le livre de Ruth, il est dit, ne pars pas dans un autre champ. Et on ne part pas dans un autre champ. Mais c'est un peu ça, vous voyez. On pourrait vite partir dans un... Hop, on part ailleurs, on cherche des solutions ailleurs, on essaye de faire par nous-mêmes, vous voyez. C'est un peu ce qu'a fait, quand on y réfléchit, un peu Saül, à un moment donné. Il n'est plus resté dans la foi, dans l'obéissance, mais voyant que les Philistins arrivaient, voyant que, oh là là, tout le monde fichait le camp, alors qu'est-ce qu'il a fait? Je me suis fait violence, j'ai offert l'Holocauste. Il est parti dans un autre champ, vous voyez, quelque part, c'est un peu l'image. Que Dieu nous aide ce matin les uns et les autres. Comme Abraham à dire, Seigneur, moi je suis parti un jour pour aller jusqu'au bout avec toi, jusqu'au lieu que tu m'as dit, et le lieu qu'il nous a dit c'est l'éternité avec lui. Seigneur, je ne veux pas dévier en route, hein. Je veux rester dans la foi et dans l'obéissance, sachant que quelque part, Seigneur, quelle que soit la situation, quel que soit ce que je traverse, tu prépares le moyen d'en sortir. Il y a ce que je vois et il y a ce que je ne vois pas. Et ça, c'est une réalité implacable. Et je comprends pourquoi l'apôtre Paul disait « car nous marchons par la foi et non par la vue ». Parce que si on se cantonne uniquement à ce qu'on voit, à un moment donné, on va perdre pied. Mais de réaliser au travers de l'histoire d'Abraham que l'histoire du bélier, là, moi, je la trouve extraordinaire, cette histoire. Je me dis « mais il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça ». Il n'y a que Dieu qui pouvait faire monter, voyez, cet animal-là. Abraham, il est à 5000 lieues de ça. Remarquez, j'allais dire à 5000 lieues, peut-être pas, puisqu'il dit « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste ». Ben, Dieu l'a fait, hein. Finalement, il avait la foi, vous voyez. Mais Dieu avait préparé les choses. Et je me dis, Seigneur, merci parce que tu prépares les choses pour nous. Tu prépares les choses. Je ne sais pas ce que Dieu a préparé pour toi. La manière, la façon, quand, comment. Ça, c'est son affaire, ce n'est pas la tienne. Ça, c'est son affaire. Ouais. Mais je me dis, quand Abraham, il a dû aller attraper ce bélier, ça, c'est moi qui le dis, ce n'est pas écrit. Il a dû le prendre, il a dû l'embrasser. Il a dû l'embrasser, le bélier, quoi. Oh, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que je t'aime. Tu tombes bien, toi. Vous voyez ? Eh oui. Vous voyez ? Mais oui, oh, j'y mets un peu d'humour, mais c'est ça, vous voyez, parce que ça nous amène à réaliser que on est tellement loin de s'imaginer tout ce que Dieu est en train de préparer, tout ce qui est en préparation. Alors moi, je veux lui faire confiance. Je veux lui faire confiance. Et ce matin, je voudrais peut-être nous encourager les uns les autres. On est tous des Abraham en puissance. Alors moi, je me sens petit à côté d'Abraham, mais je me dis que c'était un homme de la même nature que nous. C'est un homme de la même nature que nous. Il avait des faiblesses, Abraham, comme toi, comme moi. On a tous des faiblesses. Mais Seigneur, avec ton aide et ta grâce, je veux rester dans la foi et dans l'obéissance. Même si, Seigneur, je ne comprends pas tout. Même si moi, je n'aurais pas fait pareil, j'aurais fait comme ceci ou comme cela. Mais Seigneur, je me rends compte que quelque part, tu as toujours raison et je vais te faire confiance. Et rappelons-nous toujours, aucune épreuve, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, alléluia, c'est au centre. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés, éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera. Il préparera. Alléluia. Et moi, je bénis Dieu pour ça. Cet aspect, il préparera. Il y a ce que je vois et ce que je ne vois pas. Ce dont je suis conscient et ce dont je ne suis pas conscient. Alors Seigneur, je veux rester mes yeux fixés sur toi. Alléluia. Seigneur, encore ce matin, ces choses simples, tu les remets devant nos yeux. Tu nous les rappelles, tu me les rappelles. Et Seigneur, je te demande de nous aider comme Abraham à aller jusqu'au bout avec toi. Je ne voudrais pas me priver ou passer à côté de choses que tu prépares, Seigneur. Je ne voudrais pas, Seigneur, louper des expériences, louper des rendez-vous, Seigneur, louper des occasions de te glorifier, Seigneur, parce que par impatience ou par, Seigneur, par découragement. Et combien de fois ça m'est arrivé, Seigneur. Alors, Seigneur, merci pour ta parole qui est là pour nous encourager. Et ce matin, je te prie de bénir mon frère, de bénir ma sœur. Je sais qu'il y a des situations pas faciles, pas évidentes, Seigneur. Mais merci parce que ta parole est là pour nous donner les forces nouvelles, pour continuer, pour persévérer dans la foi. Alors, Seigneur, à toi la gloire ce matin. Tu bénis mon frère, tu bénis ma sœur, Seigneur. Et qu'ensemble, Seigneur, nous puissions persévérer jusqu'au bout avec toi, jusqu'au jour où nous régnerons avec toi pour l'éternité. Mais en attendant, Seigneur, nous voulons être dans la foi et dans l'obéissance. Seigneur, à toi la gloire parce que tu prépares les choses. Merci pour les béliers que tu prépares. Toutes ces issues, toutes ces portes, toutes ces belles choses que tu as préparées, que je vois pas forcément. Même si c'est peut-être pas forcément comme moi je pense ou je le vois, Seigneur, je veux te faire confiance. Alors Seigneur, à toi la gloire ce matin. Je te demande vraiment de nous aider, de nous secourir. Dans le nom de Jésus. Amen.